Chères auditrices, chers auditeurs, ravis de vous retrouver à l'écoute et heureux de partager ces moments avec vous. Nous approchons du terme de l'étude sur l'Église de Jésus-Christ. Nous avons évoqué ce qu'est l'Église, ses différents services, mais aussi ce qui l'affecte sous l'angle des maladies touchant le corps de Christ. Nous avons aussi parlé de questions relatives à l'alimentation, prenant soin de respecter les convictions de chacun. Le mois passé, nous avons parlé d'équilibre. Je rappelle que les textes de toutes ces études sont disponibles sur le site de la radio, rubrique « Texte-message », onglet « Émission du troisième jeudi du mois ». Le replay de ces émissions est également disponible dans la même rubrique. Avant d'aller plus avant dans cette émission, je veux rendre grâce à Dieu qui fournit la semence au semeur et qui, de plus, lui donne aussi le pain pour sa nourriture. C'est avec son aide que tout ce travail a été rendu possible. Je le remercie également de m'avoir incorporé à un groupe local de compagnons de service. Je cite Jean-François Sécollier, Thierry Diès, Paul Calzada, et aussi Carmen, Doris, Manel, Georges. Et comme aux noces de Cana, j'ai gardé le meilleur pour la fin, notre cher frère André Nierga. Ces choses étant dites, ce jour nous parlons de questions diverses, un peu comme si un auditoire partageait ses interrogations publiquement. Ici et là, on m'a interrogé sur des questions relatives aux Écritures, et parfois, on m'a posé des questions concernant des actes de la vie courante. Des questions parfois surprenantes, mais tout à fait compréhensibles, car il y a, dans la famille chrétienne, divers courants avec des lectures différentes des Écritures. Modestement, comme cela a été fait dans cette série d'études de la Bible, nous continuerons d'examiner les Écritures pour nous laisser enseigner par elles. Autour du 1er novembre, plusieurs questions récurrentes sont souvent posées. Florilège. Un chrétien a-t-il le droit d'acheter un caveau ? Rappelons qu'il est de la responsabilité des vivants de donner une sépulture à ceux qui sont morts. Exemple d'Abraham. Sarah, sa femme, décède à Hébron, au pays de Canaan. Abraham mène le deuil sur elle et la pleure. Puis il demande à acquérir un tombeau. Je lis Genèse 23, 4 et suivant. Je ne suis qu'un étranger, un hôte de passage parmi vous. Accordez-moi la propriété d'un tombeau chez vous pour que je puisse y enterrer ma femme. Réponse des Hittites descendants de Heth. Fais-nous l'honneur de nous écouter. Tu es parmi nous un prince béni de Dieu. Enterre ta femme dans le meilleur de nos tombeaux. Aucun de nous ne voudra te refuser son tombeau pour l'y enterrer. Et Abraham poursuit. Si vous acceptez vraiment que j'enterre ma femme ici, veuillez intervenir en ma faveur auprès d'Éphron, fils de Soar, pour qu'il me cède la grotte de Macpéla qui lui appartient et qui se trouve à l'extrémité de son champ, qu'il me la cède à sa vraie valeur, en votre présence, afin que ce tombeau soit ma propriété. Et en conclusion de la transaction, Abraham donne à Éphron la somme que celui-ci a mentionnée devant ses compatriotes, 400 pièces d'argent ayant cours chez les marchands. Dès lors, le champ d'Éphron, situé à Macpéla, à l'est de Manré, la grotte qui s'y trouve et tous les arbres situés à l'intérieur de ses limites deviennent la propriété d'Abraham. Tous les Hittites qui sont à la porte de la ville en sont témoins. Après quoi, Abraham enterre sa femme Sarah dans la grotte du champ de Macpéla, près de Manré, c'est-à-dire Hébron, au pays de Canaan. Le champ et la grotte qui s'y trouvent ont cessé d'appartenir aux Hittites et sont devenus, avec leur accord, la propriété d'Abraham pour qu'il puisse y enterrer ses morts. Comme suite à cela, Jacob, descendu en Égypte auprès de Joseph, donne les consignes suivantes relatives à ses obsèques. Je lis Genèse chapitre 49, versets 29 et suivants. « Quand je serai mort, enterrez-moi dans le tombeau de mes ancêtres. » C'est la grotte située dans le champ d'Éphron le Hittite, à Macpéla, près de Mamré, au pays de Canaan. Abraham a acheté ce champ à Éphron pour que le tombeau soit sa propriété. C'est là qu'on l'a enterré, ainsi que sa femme Sarah, puis Isaac et sa femme Rebecca. J'y ai moi-même enterré Léa. Le champ et la grotte qui s'y trouvent ont été achetés aux Hittites. À son décès, Joseph ordonne aux médecins qui sont à son service de préparer le corps de son père en vue de l'enterrement. Selon la coutume, les médecins passent 40 jours à enduire le corps d'huile parfumée pour le conserver. Les Égyptiens célébrèrent le deuil de Jacob pendant 70 jours. Les fils de Jacob accomplissent ensuite ce que leur père leur a ordonné. Ils transportent son corps au pays de Canaan et l'enterrent dans la grotte du champ de Macpéla, près de Mamré. Abraham avait acheté ce champ à Éphron le Hittite pour que le tombeau soit sa propriété. Joseph, quant à lui, aura une autre sépulture. Moïse, en sortant d'Égypte, à la tête du peuple, prend avec lui les ossements de Joseph, car ce dernier l'avait fait jurer aux fils d'Israël en disant « Quand Dieu interviendra pour vous, vous ferez remonter mes ossements loin d'ici avec vous. » 40 ans plus tard, ils sont enterrés à Sichem, dans la partie de terrain que Jacob a acheté au fils de Hamor, le père de Sichem, pour 100 pièces d'argent et qui fait partie de l'héritage des descendants de Joseph. Pour ce qui est du roi David, il est écrit qu'il est enterré dans la cité de David à Jérusalem. Le corps de Jésus est déposé par Joseph d'Arimathée, aidé de Nicodème, dans son propre tombeau qu'il venait de faire creuser dans le rocher et qui se trouvait tout près. Judas, pris de remords en apprenant la condamnation à mort de Jésus, rapporte les 30 pièces d'argent, somme rétribuant sa trahison. Les chefs des prêtres déclarent « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. » Et après en avoir délibéré, ils achètent avec cet argent le champ du potier, pour y ensevelir les étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé « champ du sang ». Concernant Étienne, le premier martyr, il est simplement dit que des hommes pieux l'ont enterré et ont abondamment pleuré sur sa mort. Quant à Ananias et Saphira, des jeunes gens les ont enterrés l'un à côté de l'autre. Sauf omission de ma part. Nous n'avons aucune précision dans le Nouveau Testament se rapportant à l'acquisition d'un sépulcre. Nous aurons cependant des frais à assumer pour remplir notre responsabilité de donner une sépulture à nos défunts. Et s'il se trouve des spécialistes du funéraire honnêtes, d'autres, comme j'ai pu le constater, sont de véritables vampires, abusant de la peine dans laquelle les familles sont plongées. Nous faisons maintenant une pause musicale.
Son amour est réel. Nul au monde ne nous connaît mieux. Son amour, son amour est tel qu'il nous appelle les enfants de Dieu. C'est bien ce que nous sommes. Oui, nous le verrons, nous le verrons. Tel qu'il est, quand il reviendra sur la terre, nous prendra avec lui. nous serons comme Jésus-Christ. C'est cette ressemblance à Jésus qui alors nous unira à lui.
La question posée était : un chrétien a-t-il le droit d'acheter un caveau ? Après le tour d'horizon qui vient d'être fait, je crois, bien aimé, que vous avez votre opinion sur le sujet. Des frais incontournables sont inhérents aux obsèques. Quelques décennies en arrière, certains chrétiens débattaient sur le fait qu'il n'était pas convenable d'investir dans l'achat d'un logement, voire d'un lieu de culte. L'argument principal était « Jésus revient bientôt ». À ce jour, certains de ceux qui étaient contre sont propriétaires de belles villas et se réunissent dans de magnifiques locaux qu'ils ont autofinancés. Mais avec plus de force qu'hier, nous disons avec l'Écriture « Jésus vient bientôt ». Bien-aimé, es-tu de ceux qui l'attendent ? Bien-aimé, es-tu prêt à paraître devant lui ? Jésus est chargé par le Père de juger les vivants et les morts. L'Écriture oriente nos regards vers le futur avec cette appréciation « Le meilleur est devant nous ». Une deuxième question relative aux défunts est la suivante. Un chrétien peut-il fleurir sa tombe ? Car il est traditionnel en ce mois de novembre de se retrouver dans les cimetières. Si l'on répond mot pour mot, alors la question est la sienne, non. Par contre, il peut fleurir celle de ses défunts, car il est convenable de garder le souvenir de ses disparus, sans pour autant que cela tourne au, entre guillemets, culte des morts. Certaines cérémonies nous placent parfois près de stèles commémoratives et ont pour objet d'évoquer la mémoire de ceux qui sont morts en combattant pour notre liberté. Pour ceux qui auraient une réticence avec ce type de cérémonie, rappelons simplement la parole donnée par Élisée le prophète au général syrien Naaman, qui vient d'être guéri de la lèpre. Il découvre la foi au Dieu vivant, créateur des cieux et de la terre, et qui ne peut être représenté par un objet quelconque. Naaman a conscience d'un problème que le protocole va lui poser. Je lis 2 Rois, chapitre 5, versets 17 à 19. Naaman reprit, « Puisque tu refuses tout cadeau, permets-moi au moins d'emporter un peu de terre de ton pays, de quoi charger 2 mulets. En effet, je ne veux plus offrir de sacrifice complet ou de sacrifice de communion à d'autres dieux qu'au Seigneur d'Israël. Seulement, je demande d'avance pardon au Seigneur pour ceci. Quand mon maître, le roi de Syrie, entre dans le temple de son dieu Rimmon pour prier, je dois m'incliner jusqu'à terre, en même temps que lui, car il s'appuie sur mon bras. Que le Seigneur veuille donc bien me pardonner ce geste. » Élisée lui répondit, « Tu peux t'en aller en paix. » Et Naaman est parti. Bien que gardant le souvenir de ceux que nous avons aimés, qui ont partagé notre vie, nous ne vivons pas dans la nostalgie, mais notre espérance est dans le temps des retrouvailles, et donc notre attente est celle du retour du Seigneur. Je lis 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 17. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. L'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, rappelle la résurrection de Christ, et par là même, la garantie de notre espérance, notre propre résurrection, où, je cite, versets 50 à 54, « Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. » Ainsi, pour ceux qui meurent, le corps passe par un retour à la poussière, tandis que ceux qui seront vivants lors de l'enlèvement de l'Église recevront instantanément le corps glorifié, semblable à celui de Jésus ressuscité. Philippiens chapitre 3, versets 20 et 21. Lorsque nous dormons, nous perdons la notion de temps, et c'est au réveil, grâce soit à la pendule ou à la lumière du jour, que nous pouvons évaluer le temps écoulé. Pendant que nous sommes dans cette vie, nous nous réveillons dans ce corps de chair que nous habitons, avec l'usure du poids des ans. Si nous devons passer par la mort, alors nous nous réveillerons avec le corps glorifié, susmentionné, dans l'instant qui suit. Quelle que soit la durée entre notre décès et la résurrection, comme le précise 2 Corinthiens chapitre 5, verset 8, « Quittez ce corps et demeurez auprès du Seigneur. » La Belle au bois dormant, dans le conte de Charles Perrault, s'est endormie comme l'on sait, et 100 ans se sont écoulés avant que le baiser du prince ne vienne la réveiller. Lorsque l'homme rend son dernier souffle, quand il s'endort du sommeil éternel, il entre dans l'éternité. Dès lors, la notion de temps est tout autre. Nous écoutons une nouvelle page musicale. Une question est souvent posée par des croyants ou des non-croyants. Peut-on parler avec les morts ? La solitude, la relation affective réelle vécue avec les disparus, motive ce souhait. Parfois, la motivation est plus mercantile, intéressée. Attention, danger ! Le spiritisme, qui est une branche de l'occultisme, propose des pistes pour la communication éventuelle avec les morts. Il s'articule autour d'objets inanimés, tels des tables tournantes ou des médiums qui font office de postes récepteurs. On peut comprendre que certains soient séduits par la pensée de garder une communion avec les défunts bien-aimés, sans parler de motifs cupides, car dans telle famille, le grand-père est parti sans dire où il avait caché la cassette contenant les pièces d'or. Quel éclairage nous en donne la parole de Dieu ? Voici ce qui est écrit dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 6. « Les morts ne participeront plus jamais à tout ce qui arrive ici-bas. » Et dans le livre de l'Apocalypse chapitre 14, verset 13, il est écrit « Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, et ce, dès maintenant. Oui, dit l'Esprit, ainsi ils se reposent de leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent. Ces choses étant posées, à savoir que les morts sont dans le repos et qu'ils n'interviennent pas dans le monde qui est le nôtre, nous allons analyser le texte relatant la démarche du roi Saül, consultant une femme qui interroge les morts. Ce récit est rapporté dans le premier livre de Samuel, chapitre 28, versets 3 à 20. Quelle est la situation ? Les Philistins se préparent à l'attaque. À la vue de leur camp, Saül a très peur et se met à trembler comme une feuille. Il interroge l'Éternel, mais n'obtient aucune réponse. Saül est en pleine déchéance. Dans son désarroi, il ordonne à ses officiers ceci. « Cherchez-moi une femme capable d'interroger les morts pour que je puisse aller la consulter. » Rappelons que Saül avait interdit dans son royaume les pratiques consistant à évoquer et interroger les morts. Cela en accord avec le passage de Deutéronome chapitre 18, verset 11. Deutéronome chapitre 18, verset 11. Texte qu'il avait dû écrire de sa main en sa qualité de roi. Déguisé et accompagné de deux hommes, Saül arrive de nuit chez la femme qu'on lui a indiquée et il lui dit « Je désire que tu interroges un mort pour moi. Fais apparaître celui que je vais t'indiquer. » Réponse de la femme inquiète. « Tu sais bien que Saül a éliminé du pays les pratiques consistant à évoquer et interroger les morts. Est-ce que tu cherches à me tendre un piège pour me faire mourir ?» Afin de dissiper les réticences de la femme, Saül lui garantit, serment à l'appui, qu'elle ne court aucun risque. Question. Combien d'individus dans le pays pouvaient lui faire un tel serment ? Un seul, le roi Saül en personne. Et Saül demande à être mis en contact avec le défunt prophète Samuel. Nous n'avons pas d'indication concernant le support utilisé par la femme pour sa prestation. Boule de cristal, miroir. En voyant Samuel, selon les dires de la femme, elle déclare à son interlocuteur qu'il est Saül. La séquence continue et quand la femme évoque un vieillard enveloppé d'un manteau, Saül comprend qu'il s'agit de Samuel. Saül ne voit rien, mais il est persuadé d'avoir affaire à Samuel. Et l'échange qui a lieu anéantit Saül et le plonge dans l'épouvante. Le lendemain, il périt sur le champ de bataille. Et l'Écriture précise, 1 Chroniques chapitre 10, verset 13, Saül mourut parce qu'il avait été infidèle envers le Seigneur. Il avait négligé d'obéir à ses commandements et il avait même évoqué l'esprit de mort. Question. Qui est derrière cette réalité puisque les morts n'ont pas de contact avec les vivants? Réponse. Ce sont des esprits de ténèbres, des démons. L'occultisme, sous ses diverses formes, tout comme l'idolâtrie, met les hommes en communion avec les démons. C'est ce que l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 14. C'est pourquoi, mes chers amis, gardez-vous du culte des idoles. Et Paul conclut sa mise en garde par ces mots. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Il y a un danger bien réel et très grand. C'est la raison d'être des interdictions et des avertissements donnés par la parole de Dieu. Certes, il y a des charlatans avec des pratiques attrape-nigauds. Cela ne menace que notre portefeuille. Mais d'autres sont réellement manipulés par le diable. Aucune manifestation surnaturelle ne peut procéder de l'esprit de l'homme. Bien-aimés, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais appelle tous les hommes à se repentir et à se tourner vers lui, la source de la vie éternelle. Une dernière question pour ce jour. Les chrétiens qui se font incinérer pourront-ils ressusciter? Allusion faite à la crémation qui reste, pour certains, un sujet brûlant. Au cours des 20 siècles de notre histoire, des croyants ont été torturés pour leur foi. Certains ont été brûlés vifs et n'ont pas accepté de délivrance afin d'obtenir mieux la résurrection. Hébreux chapitre 11, verset 35. D'autres croyants ont péri accidentellement dans les flammes. Certains ont péri noyés dans les mers. Parfois, leur corps a été donné en pâture aux poissons, etc. La résurrection est autre chose que la simple réanimation de la dépouille mortelle. Elle produit un changement de nature. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 47 à 49. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons l'image du céleste. La parole de Dieu fait état de deux résurrections. Actes chapitre 24, verset 15. Il y aura une résurrection des justes et des injustes. Et Apocalypse chapitre 20, verset 5. Les autres morts ne revinrent point à la vie. C'est la première résurrection. Considérons maintenant ce qui est relaté au sujet des obsèques de Saül. 1 Samuel chapitre 31, versets 12 et 13. Les vaillants hommes de Jabès en Galaad, ayant appris la mort de Saül et de ses trois fils sur le champ de bataille, et comment les Philistins avaient traité leurs corps, ont fait une nuit de marche pour récupérer les corps et les ramener chez eux. Là, ils les ont brûlés, puis ont récupéré les os et les ont ensevelis. Et ils ont mené deuil sous forme d'un jeûne de 7 jours. Par ailleurs, lorsqu'ils ont appris la mort de Saül et de ses fils, David et son entourage ont déchiré leurs vêtements, signe d'humiliation, ont fait une cérémonie funèbre, pleuré et jeûné jusqu'au soir. Et David a composé un chant funèbre, chant de l'arc, 2 Samuel chapitre 1, versets 11 à 27. Après ces événements, David a été établi roi sur la maison de Juda. Apprenant que les gens de Jabès en Galaad, agissant par respect pour les corps, avaient donné une sépulture à Saül, David leur a envoyé des messagers pour les bénir. Que l'Éternel use de bienveillance envers vous. Moi aussi, je vous ferai du bien parce que vous avez agi de la sorte. 2 Samuel chapitre 2, versets 4 et 5. Voici maintenant quelques éléments qui, comme on dit, donnent matière à réflexion. à propos du symbolisme du feu. Si l'on dit en se référant à divers exemples de l'Ancien Testament, Tamar, Akan, Sodome et Gomorre, si l'on dit donc que l'on brûlait ce qui était considéré comme maudit, que l'action du feu est une manifestation de condamnation, manifestation de châtiment, manifestation de la colère de Dieu, qu'elle marque une malédiction sur les corps, alors pourquoi ? Petit a, pourquoi donc les jeunes gens, Actes chapitre 5, versets 6 à 10, n'ont-ils pas brûlé les corps d'Ananias et de Saphira, à l'évidence dévoilés par le Saint-Esprit ? N'était-ce pas une excellente occasion pour perpétuer les instructions de l'Ancien Testament distinguant entre les bons morts et les autres ? Petit b, pourquoi donc David cité plus haut n'a-t-il pas désavoué les gens de Jabès au lieu de les bénir ? Petit c, pourquoi donc Élie sur le mont Carmel a-t-il demandé comme signe d'approbation que l'Éternel réponde par le feu ? 1 Rois chapitre 18 verset 24 puis 36 à 39. Le jour de la Pentecôte, Actes chapitre 2, les langues de feu ont servi de symbole au Saint-Esprit. Autre élément qui symbolise le Saint-Esprit, l'eau. Jésus l'utilise comme lorsqu'il l'annonce que ceux qui croient en lui doivent recevoir l'Esprit. Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Cependant, lors du déluge, l'eau ne fut pas source de bénédiction. Souvent, au-delà des considérations affectives et subjectives, la crémation a confusément été associée à un culte idolâtre. Confère Moloch, Lévitique chapitre 18, verset 21, 2 Rois chapitre 23, verset 10, lequel, comme toute forme d'idolâtrie, est clairement condamné par la parole, par le Dieu saint et jaloux. La difficulté pour certains vient de l'amalgame qu'ils font entre le culte idolâtre et le support, ici la crémation. L'apôtre Paul explique ce même distinguo à propos des viandes sacrifiées aux idoles. Je termine cette réflexion avec l'exhortation de la lettre aux Hébreux, chapitre 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Cette parole est en relation avec le retour du Seigneur, comme le dit clairement le contexte, ainsi que les termes grecs utilisé par l'auteur de l'Épître. Chapitre 10, verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. La promesse est celle de Jésus à ses disciples. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean chapitre 14, verset 3. Il convient de souligner que ce verset 25 de l'Épître aux Hébreux chapitre 10 se termine avec ces mots « D'autant plus que vous voyez s'approcher le jour ». Or, dans les Évangiles comme dans les Épîtres, le jour qui est proche est toujours celui qui est en relation avec le jour de sa venue. En poursuivant l'examen du contexte de ce verset 25, il faut nous arrêter sur les versets 36 et 37 de ce chapitre 10. Sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours, n'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Pourrait-on avoir une phrase plus explicite que celle-ci ? Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Ce chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux fait allusion à cette grande espérance des croyants, le retour de Jésus-Christ et le rassemblement dans les airs de ceux qui croient en lui. Le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour toi, bien-aimé, c'est que tu sois de ce rassemblement. C'est là que l'Église universelle, disons simplement l'Église de Jésus-Christ, qu'il s'est acquise par son propre sang, sera réunie. Foule immense de gens que personne ne peut compter, des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Amen.